Oui, merci. Bonjour à tous. Fait que les visages malheureux, c'est ceux qui reviennent de vacances. Ce matin, je ne sais pas si c'est un sujet qu'on peut appeler heureux, malheureux. Je veux vous parler des démunis, ce que j'appelle plutôt, moi, les exclus. Hein, quand on parle de démunis, on parle de gens qui sont pauvres, on parle de gens qui sont mis de côté d'une certaine façon. C'est pour ça que je les appelle les exclus. Pour vous donner une idée de ce qui peut être comique aussi de ce côté-là, au début de l'été, j'ai lu un article dans le journal qui disait que les sans-abri ont été mis dehors. C'est intéressant comme titre, ils ont mis les sans-abri dehors. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont pu faire leur compte, mais ils les ont mis dehors. Hein? Voyez ça comme vous voulez, mais d'autres fois, quand je m'arrête à y réfléchir, je me dis, c'est peut-être ça qu'on fait un peu avec eux. Parce que qui rêve un jour de devenir un démuni? Qui a souhaité que son enfant un jour devienne un pauvre, hein? Hein, souvent, on a pensé peut-être à médecin, avocat, notaire, une profession, quoi, quelque chose de bien, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont espéré que leur enfant devienne un pauvre. Peut-être que vous vous dites, les pauvres, c'est en Afrique, c'est à Haïti, dans d'autres pays, mais c'est pas ici au Québec. Détrompez-vous. J'ai déjà cru de même, moi aussi. La première fois que j'ai réalisé la pauvreté, j'étais dans la marine canadienne. On était à Porto Rico, puis à un moment donné, nos officiers nous ont avertis de barrer les poubelles. Intéressant, barrer les poubelles. Ben oui, ils vont nous voler nos vidanges. Hein? C'est pas fort, me semble, comme demande de barrer ses vidanges. Alors, ayant pas cru cet officier, les vidanges qui ont été mis sur les quais n'ont pas été cadenassés. Ça a été mis là, point, puis s'ils nous les volent, c'est pas grave. Mais j'ai été très surpris quand j'ai vu des gens venir, des adultes, des enfants, ouvrir les containers, fouiller dans les vidanges. Et ce qui me surprenait encore plus, c'était de voir ce qu'ils prenaient. Nos restes de nourriture. C'était la première fois, j'avais 17-18 ans à l'époque, c'était la première fois que je voyais quelqu'un fouiller dans un corps à vidange, à ramasser des restants de patates, des restants de viande, puis les manger. Directeur, pareil comme quand on cueille des fraises hein, dans un champ, on en met une dans le panier, une dans sa bouche, une dans le panier, une dans sa bouche. Eux autres, c'était un peu ça. Ils en mettaient un petit peu dans un sac, puis ils en mangeaient en même temps. Hey, c'est quelque chose. Puis à ce moment-là, je me rappelle d'avoir remercié le ciel parce que je vivais dans un pays où ça n'existait pas. Hein, moi, je viens d'un quartier qui s'appelait à l'époque Gros-Pain. Hein, tout le monde connaît ça, Gros-Pain? Non. Caroline, dans quel monde suis-je arrivé? Même les gens qui restent à Gros-Pain ne savent pas que ça s'appelait de même. C'est Charlebourg qui est aujourd'hui annexé à la ville de Québec. Et c'est un quartier résidentiel où tout le monde travaille, où tu manques de rien. Pas des gens millionnaires, mais des gens qui ont des emplois puis qui manquent de rien. Le frigidaire chez nous a toujours été plein. Quoi qu'on s'est plaint souvent qu'on avait faim. Pourtant, le frigidaire était plein, la table était pleine, et il y en avait partout de la nourriture, puis on s'est déjà plaint qu'on avait faim, mais ça, hein. Juste à faire un voyage avec des enfants, puis vous entendez trois choses. J'ai faim, j'ai soif, j'ai envie. Dire j'ai faim, c'est une normalité, mais souvent, on est bien plein, puis on a faim. Un jour, j'étais à Montréal, puis je me rappelle avoir vu quelqu'un être près d'un restaurant McDonald's. Déjà là, ça rouvre l'appétit. Puis une personne est sortie avec un hamburger entamé. Puis en sortant, il l'a tiré dans la poubelle. Puis j'ai été surpris de voir quelqu'un presque partir à la course, ramasser le morceau, puis le manger. Wow! À Montréal, il y a des gens qui font ça. Sûrement un drogué. Hein, ça peut pas être d'autre chose qu'un drogué, parce que manger dans les poubelles. Je sais pas si vous faites ça ici. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui mangent dans les poubelles. Mais ça existe. Et si on approfondit la ville de Montréal et même Longueuil et plusieurs régions de notre beau pays, on va se rendre compte que c'est beaucoup plus commun qu'on peut le penser. Et un verset que j'aimerais partager avec vous, c'est dans Job. Job au chapitre 31. Ça dit ceci, moi j'ai la traduction sommaire à partir du verset 19. C'est Job qui parle et il dit, « Ai-je vu l'indigent privé de vêtements et le nécessiteux manquer de couverture sans leur donner une occasion de me bénir? » Et que j'aime donc cette forme pour écrire ce verset. Quand j'ai vu un pauvre, quand j'ai vu quelqu'un dans le besoin, Job, il dit, je lui ai donné l'occasion de me bénir. C'est intéressant, il dit, quand j'ai pourvu à son besoin, il m'a béni. Hey, pourtant, on pourrait penser que quand je donne quelque chose à quelqu'un qui est en manque, c'est moi qui l'ai béni. Hein? Si je donne de l'argent à quelqu'un, si je donne un vêtement à quelqu'un, il me semble que c'est moi qui l'ai béni. Job, lui, non. Il dit, quand j'ai pris l'occasion qui m'était offerte de donner à quelqu'un ce dont il avait besoin, j'ai été béni. Intéressant. La bénédiction vient pas du recevoir, mais du fait d'avoir donné. Hein, comme ils disent, vaut mieux donner que recevoir. Les seules personnes que je connais qui sont contre ça habituellement, c'est les boxeurs. La pauvreté, ce n'est pas un leitmotiv. La pauvreté, ce n'est pas quelque chose qu'on désire. D'ailleurs, on préfère être avec quelqu'un de bien nanti qu'un pauvre. On recherche beaucoup plus la présence des bien nantis que ceux qui sont démunis. Parce qu'on dirait que la pauvreté, c'est comme le sida. On a l'impression que les gens ont peur que ça s'attrape. Puis encore là, le sida, il y a des conditions pour l'attraper. Hein? Vous pouvez vous asseoir à côté d'un sidéen, il n'y a pas de problème. Vous pouvez donner la main à un sidéen, il n'y a pas de problème. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Mais il y a des choses qu'on peut très bien faire. Vous pouvez accompagner un sidéen. La pauvreté aussi. Quoique la pauvreté, ça ne s'attrape pas. C'est pas contagieux. Ah, c'est pas toujours évident d'être avec quelqu'un de pauvre. Habituellement, il est mal habillé. Quoi que je peux vous dire, moi, c'est parce que c'est ma femme qui m'habille, parce que sans ça, j'aurais peut-être l'air quêteux plus souvent qu'autrement. Ah, c'est ma femme qui décide ce que je porte. Et un matin, j'ai failli aller à l'église en pyjama. Ma femme était à l'hôpital, il n'y avait pas personne, il y avait mon linge sur le lit. Je savais pas quoi porter. Pas facile. La pauvreté, ça fait très peu partie de notre langage. La pauvreté, c'est même, je dirais, très peu enseigné. L'école théologique. Je ne connais pas d'école théologique qui enseigne sur la pauvreté, qui donne un cours sur la pauvreté. J'ai regardé toute la nomenclature de Aletheia, il n'en parle pas. J'ai regardé celle de Sembeck, il n'en parle pas. J'ai regardé celle de Trinity, il n'en parle pas. J'ai regardé à plusieurs endroits, puis il n'y a absolument rien sur la pauvreté, sur les exclus. Personnellement, pendant 12 ans de ministère à Asbestos Denville, j'ai jamais prêché sur le sujet comme tel. Ah, c'est sûr que à travers les prédications, des fois, tu as une phrase ou deux qui peut toucher la pauvreté. Mais plus souvent qu'autrement, on touchait la pauvreté spirituelle. Non pas la pauvreté financière matérielle. Pourtant, 300 versets sur le sujet dans la Bible. 300 versets. C'est du matériel, ça, 300 versets sur le sujet dans la Bible. On peut passer à côté, hein, on peut l'exclure, mais c'est là. Hein, dans la Bible, on a ce qu'on appelle le plan de salut. Et d'ailleurs, dans toutes nos églises évangéliques, on enseigne le plan de salut. Hein? On parle beaucoup d'évangélisation. On a le plan de salut sur des pamphlets un peu partout, en deux étapes, en trois étapes, en quatre étapes, en cinq étapes, en étapes partout. Hein? Le plan de salut, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que c'est écrit, parce que c'est dans les textes, parce qu'on peut la retrouver à une majorité de places. Alors, c'est important de l'enseigner, c'est important de le connaître. 300 versets sur la pauvreté, sur les démunis. Ça doit être important. Ça doit être très important. Dieu devait avoir un petit message à nous signaler sur le sujet. 300 versets. Moi, j'ai tendance à appeler ça la doctrine oubliée. Pour ne pas dire la doctrine mise de côté. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on l'a mis de côté? Il peut y avoir toutes sortes de raisons. Dans le psaume 41:2, ça dit « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres ». Quel est votre intérêt sur le sujet comme tel? Sur ma paye, on retire un certain pourcentage qui va à l'aide sociale. Sur ma paye, on retire un certain pourcentage qui va dans les services sociaux. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Mieux que ça, dans mon église, on a bouffe pour tous. J'y participe pas, mais on l'a dans notre église, donc je donne une offrande là, donc... Je participe quelque part, hein? Peut-être c'est votre pensée, je ne sais pas. Peut-être pas non plus. Peut-être que vous êtes très impliqué. Peut-être que pour vous, c'est très important. Puis je l'espère. Parce que Dieu, pour lui, c'est important. Il a mis 300 versets sur le sujet. 300 versets. Dieu veut sûrement qu'on y apprenne quelque chose. Dieu veut sûrement qu'on voit qu'il y a non seulement un plan pour le salut, mais aussi un plan pour ceux qui sont démunis, pour les exclus, pour ceux qui sont mis facilement de côté. C'est facile de les oublier. D'ailleurs, si vous regardez dans Galates 2.10, Pierre, avec ses acolytes, on dit à Paul, « N'oubliez pas les pauvres. » C'est intéressant de voir qu'il n'a pas donné un ordre comme tel. Il a juste parlé de se souvenir d'eux. Pourquoi avoir dit ça de même, se souvenir d'eux? Parce qu'on les met souvent facilement de côté. On n'est pas facilement leurs amis. Et souvent, c'est des gens qui sont difficiles à comprendre. Nous autres, on a l'opportunité d'en côtoyer régulièrement. Ah, de toutes sortes. Avec une bonne partie d'eux autres que ce sont des manipulateurs nés. À tous les fois qu'ils vous voient, c'est la journée où ils sont le plus dans le malheur. Et ils nous comptent des histoires, des fois, aberrantes. Il y a même des fois qu'ils ne se souviennent plus de leur famille exacte, parce que des fois qu'il y avait 5 enfants, il y a d'autres fois qu'ils en ont 4, d'autres fois qu'ils en ont 6, parce qu'ils ne se rappellent pas d'une fois à l'autre comment est-ce qu'ils nous avaient dit. Il y a des fois qu'ils nous comptent des histoires sur leur vie, de ce qui s'est passé, ils n'ont pas reçu leur chèque, quelqu'un a volé leur chèque. Il y a des fois qu'il faut vraiment scruter pour vraiment connaître la vérité. Il y en a d'autres qui ne demandent rien, qui disent rien. Mais quand tu vois leur vie, tu ne peux que reconnaître le malheur dans leur vie. Tout est senti dessous dans ce qu'ils font. On peut penser que c'est un sujet sans intérêt, mais moi, je vous invite à regarder ce que Dieu en dit. Qu'est-ce que Dieu dit de la pauvreté? C'est vrai que bien souvent, on part avec des préjugés. Hein, y en a-tu ici qui ont des préjugés? Le prochain coup m'a demandé, y a-tu des menteurs dans la place, là? On a des préjugés. Souvent, j'entends dire, c'est de leur faute. C'est de leur faute. Ça fait une drôle d'excuse, mais ça veut rien dire, parce qu'on les connaît pas, puis on dit, c'est de leur faute. Il y en a d'autres qui vont dire « c'est leur choix ». Ils ont choisi d'être pauvres. Il y a une fois, on parlait avec quelqu'un de personne qui vivait sur les rues, puis la personne me dit « il a choisi d'être sur les rues ». Ah oui? Comment tu fais pour dire « il a choisi d'être sur les rues »? Ah, probablement qu'à un moment donné, il s'est choqué contre les autres, c'est un rebelle, puis à un moment donné, il a parti, puis il s'est retrouvé dans la rue. Toute une histoire. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qu'est-ce qu'il y a eu pour amener une personne dans la rue? Remarquez que les personnes qu'on va retrouver dans la rue sont pas toujours sympathiques. Ils ont bien des problèmes. Mais pourquoi est là? Par choix personnel? Vous savez, l'été, ça peut être plaisant d'être sur les rues. Quand il y a du soleil, d'après moi, cet été, ils ont été un petit peu trempés, nos gens, sur la rue. Mais disons qu'on aurait eu un été de soleil. Ça peut être plaisant. Ah, moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, on couchait à Belle Étoile, sur la galerie. Hein? On se ramassait le matin, on se couchait le soir dans nos lits, puis le matin, on se réveillait, la moitié de la famille était sur la galerie étendue parce qu'il avait fait tellement chaud. C'est le fun, ça! Mais quand vient l'automne, les froids, la pluie, quand vient l'hiver, la neige, c'est un choix. Vous savez, quand on va à l'école, ils ont souvent des examens avec, ils appellent ça choix multiple. Souvent, on a 5 choix de réponse, A, B, C, D, E. Eux autres, leur choix était quoi pour aller sur la rue? Peut-être qu'il y avait juste B et D comme choix de réponse. Pourquoi? Parce qu'ils n'en connaissaient pas d'autres choix. Il y a des gens qui sont sur la rue parce qu'ils ont subi l'abus chez eux. Abus physique, abus sexuel. Il y a des gens qui sont sur la rue parce qu'ils ont eu des problèmes de drogue. Et de leur faute, ils ont pris de la drogue. Est-ce qu'on choisit toujours de prendre de la drogue? Des fois, c'est la gang alentour qui nous incite. Des fois, c'est bien d'autres choses qui nous amènent à tomber là-dedans. L'effet de groupe. Avez-vous déjà subi, vous autres, l'effet de groupe quelque part? Jamais? À quoi ça vous a amené? À quoi ça vous a conduit? Ah, peut-être que vous avez eu l'opportunité de vivre dans des bonnes familles, puis qui vous ont amené à avoir une croissance des plus extraordinaires pour arriver à quoi? Il y a des multitudes de raisons d'être pauvre. Je dirais des fois de père en fils. Je vois des familles où le grand-père était pauvre, le père est pauvre, puis le fils est pauvre, puis probablement s'il y a un enfant, il va continuer dans la même lignée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris d'autre chose. Il n'a pas appris d'autre chose. Il y a une jeune fille qui a 8 ans. Je me rappelle pas son nom. De toute façon, je vous le donnerai pas. À 8 ans, elle avait la taille d'un enfant de 5 ans. Elle parle comme un enfant du niveau de 3 ans. Dans le fond, elle a été élevée dans une famille où on savait pas prendre soin d'un enfant. À 6 ans et demi, elle s'est trouvée dans un centre d'hébergement. Elle savait pas se laver. Puis tout ce qu'elle mangeait, c'était des Kraft Dinner ou des choses du genre. Elle avait jamais mangé autre chose. Ça s'est passé dans les pays du tiers-monde? Non, ici, à Québec, à Montréal même. Et ça se passe encore régulièrement. Moi, il y a des fois, je vois des enfants qui ont 10, 11 ans qui se promènent à 11 heures le soir dans la rue. Des fois, ils sont plus jeunes que ça. Où sont les parents? Peut-être au bar. Peut-être que les parents, c'est des junkies ou je ne sais quoi. Certains vont dire, oui, mais ils ont juste à aller travailler puis ça va régler leurs problèmes. Moi, j'ai juste une question pour ces gens-là. Si vous auriez une entreprise, les engageriez-vous? Seriez-vous prêts à engager quelqu'un qui n'a aucune estime de lui-même, qui n'a aucune motivation, qui ne sait même pas travailler, parce qu'il n'a jamais rien fait? Moi, à l'âge de 12 ans, 13 ans, dans ma chambre, tous les meubles qu'il y avait là, c'est moi qui les avais faits. Alors, je ne vous dis pas que c'était la crème des crèmes, là. Mais juste que mes meubles, c'est moi qui les avais faits. Pourquoi? Parce que j'avais un père qui avait 1001 outils, puis il travaillait le bois, puis il nous laissait travailler le bois à côté de lui. On utilisait des outils comme il y en a qui utilisent un crayon, comme les jeunes aujourd'hui utilisent l'ordinateur. D'ailleurs, mon père avait pas d'ordinateur, puis vous viendrez me voir, vous allez voir que j'ai vraiment pas été bon en ordinateur. J'ai bien des problèmes avec ce machin-là. Pour moi, c'est vraiment l'enfer. D'après moi, l'enfer, c'est ça. T'as un gros ordinateur, mais... faut que tu joues avec ça, non? Non, c'est une machine qui m'énerve. Mais pour le bois, ça allait! Parce que mon père m'a montré à travailler le bois pas à faire des choses. Aujourd'hui, ma femme, elle aimerait que j'aille plus vite pour les faire, mais ça, c'est une autre histoire. On apprend quand quelqu'un nous le montre, puis engager un gars de même qui a même pas d'initiative, qui voit même pas le travail qui s'en vient, qui en veut? Tu sais, quand t'as quelqu'un, ça fait 6 mois qu'il travaille pour toi, puis il sait même pas encore qu'est-ce qu'il a à faire, sa job. Qu'est-ce que tu fais avec? C'est simple, ça fait au moins 3-4 mois que tu l'as congédié. Tu l'as pas gardé 6 mois, parce qu'il va te tomber ses nerfs. J'ai eu un jeune avec moi. L'été passé, j'étais allé au camp des Bouleaux, puis j'ai amené un jeune de du milieu avec lequel je travaille. Je l'ai amené avec moi au camp des Bouleaux, 1 semaine de temps. Jamais pris sa douche. C'est jamais changé. Sa brosse à dents est restée sec. Mais pourtant, il avait 15 ans. 15 ans, 1 semaine sans se laver. Ça pue un ado de 15 ans. Hein? Y a-tu des ados? Non. Non, mais après 1 semaine, là, t'as couru partout. C'est pas évident. Pourquoi il est de même? Moi, quand j'étais jeune, c'était normal de pas avoir pris sa douche pendant 1 semaine à cet âge-là. Parce qu'il y avait pas de douche chez nous. Hein? Puis plus jeune, même, chez nous, c'était un bucket. On est plus jeune, hein? Hein, on avait une grosse chaudière, on passait tout là-dedans. Hey, t'essayais de tirer le premier numéro pour être le premier à rentrer parce que, après 7. Par rapport à ça, la semaine, ben, c'était à débarbouillette. Hein, tableau. Non, non, c'est bon une douche, une fois de temps en temps, là. Sale, pas sale. Puis quand Dieu parle de la pauvreté dans la Bible, est-ce qu'il est en train de nous dire on doit les élever? Est-ce qu'il est en train de nous dire que c'est glorifiant d'être pauvre? Il met un bémol. Dans les Proverbes 6, versets 10 à 11, il dit que l'homme paresseux est saisi par la pauvreté. La paresse conduit à la pauvreté selon Dieu. Dans le Proverbe 23, il dit que le buveur et le gourmand s'appauvrissent. Puis c'est intéressant ce que vous allez trouver dans les Proverbes sur la pauvreté où Dieu dit, si tu fonctionnes de telle façon, la pauvreté peut te guetter. La pauvreté peut venir un jour. Puis on n'est personne qui sommes exclus de ça. Personne qui s'en exclut de ça. Il s'agit d'avoir des malheurs dans la vie qui se succèdent. Un gars perd sa femme, se met à boire, se met à gambler, puis un jour se retrouve dans la rue. Est-ce que ça se peut? J'en ai vu. Et je suis sûr que je vais en voir encore. C'est juste les païens à qui ça arrive. Non, ça arrive à n'importe qui. Tout nous guette. Même si on se croit des fois au-dessus de toute chose, là, tout nous guette, tout peut nous arriver. On est des êtres humains. On dit des fois avec nos forces et nos faiblesses, mais moi vous dire combien plus de faiblesses que de forces. On se laisse avoir facilement, c'est très simple. Mais Mais Dieu condamne certaines choses face à la pauvreté, condamne la paresse, condamne les excès. On peut tous tomber dans des excès. Mais aussi, il dit que dans Jacques 2:6, vous méprisez le pauvre. Hein, quand dans Jacques se dit, toi le riche, pas tout à fait comme ça que c'est dit, toi le riche, viens t'asseoir à côté de moi, puis toi le pauvre, à mon marchepied. Appelle ça du favoritisme. Du favoritisme. C'est dans notre nature, le favoritisme. Est-ce que vous aimez tous les gens également, vous autres ici? Moi, non. Non. Il y en a ici que j'aime bien parce que je les connais, puis ont déjà eu, on va faire attention à mon mot, je partais pour dire des relations ensemble, mais on s'est déjà parlé, hein? Puis on a des certains liens qui fait qu'ils nous unissent, puis on s'entend bien. Il y en a d'autres de vous autres, je vous connais pas pantoute. Alors, je peux dire que je vous aime. J'aime les gens de Tombouctou aussi. Mais on n'en connaît pas un à Tombouctou. C'est facile de les aimer. Mais il y a un de mes voisins qui m'ahale. Lui, il m'énerve. Il met sa musique à pleine tête, puis c'est pas la sorte que j'aime. Qu'est-ce que tu veux? Il a une tête à claque. A le goût de le frapper quand je le vois. Hein? Il y a des gens qu'on aime moins que d'autres. Bien, comme chrétien, on ne dira pas qu'on haït des personnes. On dit qu'on aime moins que d'autres. Ça paraît mieux. Hein? On est chrétien, on est chrétien. Pas évident. Vous méprisez le pauvre. On ne tient pas être avec eux autres. Dans le Proverbe 14:31, il dit « Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. » Et ça, j'aime ça comme... De quelle façon peut-on opprimer le pauvre? Quelle est la pire façon d'opprimer quelqu'un? L'ignorer. Hey, mettez-vous dans une situation que peut-être certains d'entre vous avaient connue. Y a-t-il des gens mariés dans la place? Bon, il y en a quelques-uns, c'est le fun, les autres sont à côté. C'est correct. On s'en reparlera plus tard. C'est pas le sujet de ma conversation matin. Imagine, à un moment donné, ta femme ou ton mari commence à te harceler pour X raisons, hein? Ça fait 7 ans que t'as dit tu réparerais les marches, puis tu l'as pas encore fait parce que t'as pas eu le temps, hein? Il y en a qui, les femmes sont pressées, veulent ça tout de suite. Non, mais 7 ans, c'est le chiffre de Dieu. T'as pas eu le temps de les réparer, puis la tarcelle avec ça, mais toi, t'écoutes la télé. Puis là, pour que tu l'entendes, ben là, elle lève le son. Toi, tu prends la manette, puis tu lèves le son. Pas le son de ta femme, là, le son de la télé. Là, t'en regardes. Elle a le goût de faire quoi? On le dira pas. Hein? Elle a beau dire, tu fais pareil comme si tu ne voyais pas, comme si tu n'étais pas là, puis tu écoutes ton programme. Tu l'ignores. Ça te dit rien à faire, elle va t'ignorer à soi. Hein? C'est la même chose avec le pauvre, souvent on l'ignore. On n'ose même pas aller dans les quartiers où ils vivent. D'ailleurs, si vous allez à Montréal, c'est ainsi, là, puis vous débarquez, ça, mettons, au métro à 3 heures, là, puis vous descendez à rue Sainte-Catherine, vous allez voir, c'est le party tout le long. Tout le long, c'est le party. Vous descendez la rue Sainte-Catherine, c'est le party. Là, il y a, dans le moment, c'est le festival des francopholies. Il y a eu le jazz, il y a eu le festival juste pour rire. Puis là, tu te promènes là-dedans, puis là, oups, t'arrives sur le coin un peu passé Saint-Denis, là, dans le bout de Berry-UQAM. Puis là, c'est le festival de la diversité. La diversité. Puis là, tu passes là, c'est encore le gros party. Tu traverses le village, c'est le party. Il y a du monde partout. Ça foire, ça bouille, ça danse, ça rit, ça jase. Puis un coup que tu as dépassé le village, tu arrives dans une autre réalité de vie. Si jamais ça vous tente, vous essaierez ça, d'aller traverser la rue Sainte-Catherine, partir de Trois-Terres jusqu'à l'autre bout de Sainte-Catherine. T'as l'impression, à un moment donné, que tu viens complètement de changer de pays. Les édifices sont désuètes. Quelques-unes sont neuves, mais la majorité sont désuètes. La majorité des édifices avec un commerce dedans, il n'y a pas de commerce dedans. C'est mal propre. Il n'y a personne qui semble rire. Il n'y a personne qui semble s'amuser. Il y a quelques, pour ne pas dire plusieurs, prostituées sur cette rue-là. Prostituées de tout genre. Femmes, hommes, jeunes hommes, jeunes femmes. Il y a un homme qu'on a connu un peu, qui était près de chez nous, qui avait un style, disons, assez féminin. Mais quand on l'a connu, il s'habillait en homme. Aujourd'hui, on l'a vu passer dernièrement, il était la robe avec rouge à lèvres pour faire la prostitution. Est-ce que cet homme-là est heureux? Est-ce qu'il file party? Surtout pour le genre de, disons, travail qu'il fait. C'est facile de les mettre de côté puis de pas s'intéresser à eux. Dieu dit qu'opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui le fait. Outrager qui? C'est qui est outragé quand on opprime le pauvre? C'est son Créateur, le même que vous et moi. Qu'on en dise ce qu'on voudra, on ne peut pas se défiler de ça en disant « c'est pas des chrétiens ». Est-ce que Dieu a écrit ses versets sur la pauvreté? Il a dit « si c'est des chrétiens, prenez soin d'eux, puis s'ils sont pas chrétiens, ben mettez-les de côté, occupez-vous-en pas ». Est-ce que Dieu dit ça? Il n'a pas fait la différence entre ceux qui croyaient et ceux qui ne croyaient pas. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. C'est vrai que les pauvres, c'est des gens bien différents de ce qu'on est habitué de voir. Les pauvres, habituellement, c'est des gens qui ont juste deux bras, ils ont juste deux jambes, ils ont juste une tête. C'est des gens différents de nous. Ils ont juste deux yeux, un nez, un cœur, un besoin d'amour, un besoin de Dieu. Ils sont différents de nous autres, hein? Très, très, très différents. La misère, c'est associé à la honte. C'est ce que Job 10-15 nous dit. Et comme je disais tantôt dans Galates 2-10, se souvenir des pauvres. Et Paul dit, c'est ce que j'ai eu bien soin de faire, prendre soin des pauvres. Vous avez bouffe pour tous, je ne sais pas si vous avez d'autres ministères auprès de ça, mais en tant qu'individu, peut-être que vous êtes très limité sur la chose. Moi, je vous invite à une chose. En tant qu'individu, c'est de scruter les Écritures face à la pauvreté. Vous pouvez premièrement peut-être regarder dans le livre des Proverbes. Juste dans le livre des Proverbes, il y a, je crois, c'est 70 versets qui parlent de la pauvreté comme telle. Ça, c'est juste d'un proverbe. Mais regardez dans le Nouveau Testament. Des fois, il y en a qui disent « Ah, ça, c'est l'Ancien Testament ». Regardez dans le Nouveau Testament qu'est-ce que Dieu dit des pauvres. Est-ce qu'il y a une place pour les pauvres dans le Nouveau Testament? Vous allez voir qu'il y a plusieurs versets là aussi. En tant que chrétien, une de nos, disons, obligations de faire, c'est de scruter les Écritures pour savoir qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu veut de moi. Hein? Il y a plusieurs personnes, des fois, qui cherchent la volonté de Dieu. Hein? Je veux une porte ouverte. Hey, faites attention aux portes ouvertes. Moi, je me promène souvent sur la rue Sainte-Catherine pour essayer de rencontrer des gens. Puis toutes les bars de Club Topless, les portes sont toutes ouvertes. Prenez pas toutes les portes ouvertes que vous voyez. Des fois, c'est peut-être pas la place à aller. On cherche la volonté de Dieu. Commencez par scruter dans les Écritures. Ah, je vous dis pas de lire le livre dans une journée. Et prenez le temps de regarder. Puis qu'est-ce que Dieu dit face à la pauvreté? Prenez-vous un crayon puis soulignez tous les versets sur lesquels vous allez passer qui vont parler de la pauvreté, des indigents, des exclus. Vous allez rester surpris. Et de là, peut-être que Dieu suscitera dans votre cœur des choses nouvelles. Nouvelle façon d'être. Du moins, une nouvelle façon de voir les choses. Un nouveau regard sur les pauvres. Sur les gens démunis, sur les gens malheureux. Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui sont si malheureuses dans la vie? C'est peut-être pour les mêmes raisons que nous, on a deux personnalités parfois. Hein? Une personnalité pour la semaine, une personnalité pour le dimanche. Connaissez-vous ça, des chrétiens de même qui ont deux personnalités? Une quand ils sont avec les gens de l'Église, puis une quand ils sont avec les gens non pas de l'Église. Pas toujours évident. Mais je vous invite à scruter les Écritures. Puis demandez à Dieu qu'il vous illumine à travers ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a quelqu'un qui s'en vient. Et si vous avez le temps, on a un tableau à l'arrière avec quelques photos et plusieurs choses qui présentent un peu notre ministère. Une des choses qu'on fait beaucoup l'hiver, c'est de donner des bas. Puis quand on donne des bas, on essaye d'en donner des nœuds parce que des mêmes, ils en ont tous. On paye le café de temps en temps aux gens. On leur paye des fois des repas. On a un petit comptoir d'épanage chez nous. On a chacun, moi et ma femme, deux oreilles pour écouter ces gens-là. Même si parfois, ce qu'ils disent n'est pas toujours la vérité. Que voulez-vous? Ils sont pas tous chrétiens, hein? Merci.